Nous allons continuer notre méditation. L'espérance consiste principalement dans l'attente confiante du salut et des biens éternels que Dieu nous donne dès maintenant, et notamment la résurrection. Alors, comme nous étions en train de méditer, n'est-ce pas, l'esprit de pauvreté, nous allons essayer de continuer. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigué. C'est seulement le premier jour. Donc, j'y vais doucement. Parce que le premier jour, il faut y aller mollo. Après, ce sera les courses de la gazelle. N'est-ce pas? Mais c'est bien, vous voyez, c'est bien. N'ayez pas peur, parce que à un moment donné, ce ne sera pas vendredi, vous aurez le temps de... Vendredi, à partir de la fin de la matinée, recueillement. Recueillement, messe, adoration jusqu'au lendemain matin. Enfin, nous serons sans voix. N'est-ce pas? Donc il y aura quand même, on tend l'élastique, puis le vendredi 15h, on est parti dans l'oraison. On est parti dans l'oraison, c'est bien ça, silence. Il faut, voyez, il faut qu'on se tire, qu'on s'arrache de cette terre. Ça, les trois premiers jours, c'est très important. Si on est encore attaché à la terre, voyez, eh bien, il va y avoir mercredi ou jeudi le syndrome de la valise. Tout le monde sait ça. Ça, c'est depuis qu'il y a les foyers de charité, c'est toujours comme ça. Il y en a la moitié au moins qui font leur valise. Et puis, il n'y en a pratiquement aucun qui part. Donc, rangez bien vos chambres. C'est important. Non, c'est vrai, il faut savoir ça, parce que on est lié. On est lié. Nous sommes liés esclaves. Nous avons pris des attaches terrestres qui nous empêchent de vivre de l'espérance, qui nous empêchent d'avoir le vol libre de l'espérance. On a des petits oiseaux du bon Dieu, c'est vrai, mais avec des petits fils à la patte, accrochés là. Alors, on s'envole, et puis, pouf, il y a un fil. Aïe, 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 aïe. Alors c'est ça. Les trois premiers jours, il faut couper les fils. Et il y en a. Voyez. Alors, vous vous rendez compte, hein, la moissonneuse batteuse, quand elle fait ça, quand elle coupe tout, il faut tout couper. Hein. Et ces trois premiers jours, ça. C'est fou, quoi. Ah, je suis content. Oh, quand je suis content. Ah oui. Chut. Alors, nous allons continuer. Vous voyez, dans l'esprit de pauvreté, ce qu'il faut reprendre, quand nous faisons un acte d'espérance, qui est un acte de total abandon actif. J'espère que nous avons compris ça, n'est-ce pas? C'est un abandon, une offrande actuelle, active. On ne s'abandonne pas à un état de... Oui, quelqu'un m'a dit tout à l'heure, mais c'est pas possible, combien de fois j'ai entendu les pères Carmes, les pères de Saint-Jean, les pères Machin, les pères Truc, les pères Troubadour, tout ça, et tout dire, voilà, quand vous faites oraison, ben mettez-vous là, et puis vous là, puis vous êtes là, et puis pendant une demi-heure, faites oraison, là, vous êtes là, et puis vous êtes entièrement donné au bon Dieu, c'est pas ça? Ah, faut pas crier dedans. Et vous êtes entièrement donné au bon Dieu, vous êtes entièrement là, vous attendez, le bon Dieu est là, vous êtes là. Et vous attendez une demi-heure, le temps est donné au bon Dieu qui rien, quoi. Ne faites rien. Mais c'est faux, ça. Et je vous dis, les pères Carmes ne disent pas ça. Si vous avez entendu ça, c'est que vous avez des liens qui vous rendent sourds. Et les frères Saint-Jean ne disent pas ça. J'en sais quelque chose. Croyez-le bien. Moi, en tout cas, je n'ai jamais dit ça. Elle me dit, mais ce que dit le curé d'Ars à propos de ce monsieur qui était venu devant le tabernacle. Mais qu'est-ce que tu fais là?
Monsieur, moi je suis là, et je la vise, il m'avise.
Ah voilà, il fait oraison. Ah oui, attention. Cet homme qui était là, qui faisait oraison les matins dans l'église du curé d'Ars, vous avez bien vu, il n'est pas là, et puis il attend. Non, non, il la vise. Il le regarde. Il le voit. Et il voit que Jésus le voit. Et il y a cette espèce de relation de l'être humain à l'être divin qui est prise par la très sainte Trinité. Et ça, il le voit. Si vous ne le voyez pas, votre raison est stérile. Parce que la foi nous fait voir les réalités que nous ne voyons pas. L'espérance nous fait vivre des réalités que nous ne possédons pas. Vous voyez, et c'est très important de vivre l'oraison. C'est pas là, ah, et non, c'est... C'est ça, c'est fou, quoi. Quand vous voyez le Saint-Père faire oraison après la communion, c'est fou, quoi. Là, d'avoir assisté à l'oraison du Saint-Père une fois dans sa vie, pendant une demi-heure, vous avez tout compris. Jean-Paul II, je veux dire. Puis XII, je sais pas, j'y étais pas. Mais... Bon. Paul VI, j'ai vu une fois prier. Paul VI. Paul VI, dans l'oraison, il n'était pas là. Hein. Ah. Paul VI. Paul VI, il était là. Il était là. Et des torrents de larmes qui sortent de lui. J'ai vu de mes yeux. L'oraison de Paul VI. L'oraison de Jean-Paul II. Alors là, c'est l'oraison de Jean-Paul II, c'est complètement étonnant. C'est complètement étonnant, complètement admirable. Et ça montre, vous voyez, que quand on est des tout-petits, quand on est dans l'espérance, on n'a pas peur. On n'a pas peur de Dieu. On a peur que Dieu ne soit pas là et ne prenne pas tout. Allez. Alors, Jean-Paul II, il est là, Jésus qui prend tout le monde entier, qui est là en lui, qui prend tout, Là, moi, je le fais mal, parce que je vous affirme, comme si un bulldozer, qui ramène tout dans le Père. La puissance du Christ dans le cœur du Saint-Père, et... Et alors, je le fais très mal, malheureusement, parce que... Mais c'est... C'est un rôle qui s'enfonce avec le monde entier en Dieu. Oh, il n'est pas là. Et alors, on te donne l'impression, je vous affirme, tous ceux qui ont vu le Saint-Père, ils vous le diront, hein. Tous, hein, ceux qui ont été à la messe du Saint-Père, la demi-heure d'oraison qui va après, quoi. On est là, au milieu. Moi, je crois, on était 20 petits jeunes moines, là, quand on était là. On parlait toujours, j'étais là.
Quelquefois, il y a des moines qui sont un peu mystico-dingo, hein.
Et d'un seul coup, je commence à entendre ce grondement, ce rugissement. C'est très difficile à dire. Un amour qui pousse tout en dehors de la terre. Qui pousse toute la terre en dehors de la terre. Et je me disais, mais quel est l'idiot qui est en train de... Quel est le... Je suis sûr que c'est le frère Frédéric qui est en train de couler la baraque. Comme un lion, vous savez. Moi, j'étais en Afrique, c'est ces lions, là, qui sont cachés dans les forêts, et puis... Vous les reconnaissez. Je sais pas s'il y en a au Togo, il y en a peut-être plus, mais...
tu...
Le roi de l'univers, le roi d'amour, celui qui rassemble toutes les forces de l'amour de tous les hommes dans le cœur du Christ. Et à ce moment-là, on ramène la création gémissante dans la joie infinie de Dieu. Dans la joie infinie de Dieu. Et alors, ça fait... Vous allez dire, oui, quand même, nous, on va quand même pas faire comme ça. Et pourquoi pas? Si, tu peux pas faire comme le pape, mais tu peux le faire à la manière toute simple d'un enfant. Oui, on peut, le corps participe, et à un moment, c'est Jésus qui doit le faire à travers toi. Et on est dedans, notre corps est au service, et va vibrer sous les voiles de l'Esprit Saint. Et alors tu le fais avec ton... Tu comprends? Et tu le fais de... On doit le faire de toute son âme, de tout son cœur, tout son esprit. On le fait de tout son corps, de tout son cœur, de toutes ses forces, de toutes ses puissances, de toute la chair, toute la pauvreté de notre chair, tous les gémissements cachés qui sont en nous, toutes nos petites blessures qui vont servir à cette joie du bon Dieu de pouvoir être donné à toutes les pauvretés du monde, et à toutes les pauvretés du monde d'être emportées, enfoncées dans les joies trinitaires. Et l'oraison pendant une demi-heure, vous êtes le bulldozer de Dieu. C'est magnifique, l'esprit de pauvreté. Si on n'est pas très pauvre, voyez, il faut croire, frères et sœurs, que nous sommes choisis par le Christ. Dans l'horizon. Il faut le croire. Il le faut. Mais sinon, c'est pas juste. C'est pas juste, voyez. Alors, donc continuons. Continuons cet esprit de pauvreté. Oh, c'est formidable. C'est formidable. Nous ne sommes pas le Christ, c'est bien évident. Mais on veut que le Christ pauvre refasse ce qu'il a toujours voulu faire, qu'il ne peut plus faire. Et qu'il ait la consolation de pouvoir continuer à le faire. Parce que quelle a été la joie de Jésus? La joie de Dieu, la joie très grande de Dieu concernant les pécheurs, c'est de pouvoir s'incarner pour souffrir. Parce qu'à travers la souffrance de la croix, il a donné toutes les joies divines aux pécheurs. Il a donné tout. Il a donné toute liberté aux pécheurs. Il a donné toute lumière, toute grâce, toute miséricorde. C'était ça sa joie. Il ne pouvait le faire que dans la rédemption. C'est impossible autrement. Il s'est incarné pour ça. C'est la joie de l'incarnation. C'était pour pouvoir ramasser tout ce qui était brisé dans sa brisure et reprendre lui-même dans sa propre plaie vivante, toutes les plaies de l'humanité, l'océan de souffrance de l'humanité. Alors du coup, en prenant ça, c'est toutes les joies divines qui venaient s'emparer de ceux qu'il aime et qu'il ne pouvait pas atteindre sans s'incarner et en descendant jusqu'en étant une plaie vivante d'amour. À ce moment-là, en faisant ça, oui, ça y est, Dieu retrouvait ceux qu'il aimait en plénitude. Et maintenant qu'il est ressuscité, le Seigneur, maintenant que le cœur de Jésus, le corps de Jésus, l'âme de Jésus, l'esprit humain de Jésus, l'affectivité de Jésus, l'imaginaire de Jésus, maintenant qu'il est rempli de la gloire de la béatitude, ressuscité d'entre les morts, glorifié, illuminé, débordant, surabondant de béatitude, de bonheur, d'ineffable tourbillon d'amour, de reconnaissance, de gratitude, de paix, de joie, d'allégresse, irrésistiblement indestructible. Alors, comme il est là, il ne peut plus. Il ne peut plus. C'est curieux, hein, ça. Alors, il a inventé la foi, l'espérance, la charité, pour qu'il y ait quelques-uns qui soient en vase communicant avec lui, qui fassent partie de son corps, grâce à l'Eucharistie, grâce au baptême, parce que par le baptême, le corps de ceux qui sont sur la terre et qui peuvent souffrir encore, eh bien, sont incorporés corporellement dans le corps mort et ressuscité du Christ. Et par l'Eucharistie, cette incorporation s'approfondit. Et nous sommes nous sur la terre. Et grâce à ça, vase communicant, Jésus va pouvoir, dans son corps mystique, c'est-à-dire à travers nous, offrir à travers la croix de son corps mystique cette possibilité de retrouver tous les pécheurs dans un amour parfait avec le Père. Et c'est ce qui le console. C'est ce qui console le bon Dieu, c'est que ceux qui sont séparés de lui retrouvent une unité profonde avec lui. Et ça ne se fait qu'à travers la plaie du cœur de Jésus. On y reviendra longuement là-dessus. Parce que ça, il faut le comprendre. C'est très important. Souvent, on dit par exemple, quand on dit « j'ai cherché des consolateurs », et je n'en ai pas trouvé. J'ai cherché des consolateurs, je n'en ai pas trouvé. Ce qui rend, si je puis dire, Dieu n'a pas besoin de consolation, il est substantiellement consolation. Mais de ce qu'il a aimé, il nous a aimés. Et comme on est séparé de lui, par la souffrance on est séparé de lui, vous comprenez? Par la révolte on est séparé de lui, par le péché originel on est séparé de lui, par l'erreur on est séparé de lui, par l'ignorance on est séparé de lui, par la tristesse on est séparé de lui, par l'angoisse on est séparé de lui, par l'orgueil on est séparé de lui. On est séparé de lui, quoi. Alors, il nous aime, alors il est inconsolable parce qu'il ne peut pas nous rejoindre, on s'est séparé de lui. Alors, quelque part, c'est sa consolation de pouvoir nous rejoindre. C'est ça la consolation du bon Dieu, c'est de pouvoir nous rejoindre. C'est de pouvoir nous sauver, et il ne peut le faire que dans cette blessure béante. Il devient plus pauvre que nous. Alors quand il devient plus pauvre que nous, ça y est, il nous a retrouvés. Vous comprenez? Ah, quelle consolation! Oh, vous comprenez pourquoi Jésus fait... C'est bien à travers une douleur infinie, mais en même temps une consolation infinie. Parce qu'il a retrouvé, à travers cette pauvreté totale de la croix, vous voyez, il a retrouvé toutes les pauvretés du monde et tous ceux qui étaient séparés de lui. Alors, c'est la consolation. C'est la consolation du bon Dieu. Et lorsque Jésus ressuscite d'entre les morts, vous savez pourquoi il ressuscite d'entre les morts? Parce qu'en ressuscitant d'entre les morts, eh bien, il laisse cette plaie béante des crucifiés dans le cœur de Marie. Ça s'appelle la transverbération. Et donc, la plaie de son cœur reste sur la terre, à l'état béant. Et quand Marie s'en va, il reste encore tous ceux de son corps mystique. Les chrétiens qui, par la foi, l'espérance et la charité, voyez, rentrent, et surtout par l'espérance, rentrent dans cette plaie béante. Ils deviennent eux-mêmes une plaie béante d'amour. Et à chaque fois qu'ils ont une petite souffrance, génial, ils s'engloutissent dedans. Je suis une plaie béante. Je suis écorché vif, c'est génial. Ah, enfin, les pécheurs sont... Jésus peut passer à travers moi aujourd'hui pour rassembler tous les pécheurs, et moi je peux les déposer à l'intérieur de la très sainte Trinité, dans la joie infinie de la vision béatifique, dès maintenant, et en plénitude. Et c'est ça qui console le Christ ressuscité. De pouvoir avoir des vases, des cœurs, voyez, des hommes, des femmes, des enfants, qui respectent ses commandements. Vie éternelle pour tous les pécheurs. Et c'est à travers cet esprit de pauvreté, on accepte d'être entièrement livré et d'être là. Je peux rien, je suis nul, je suis un zéro total, une plaie béante, un écorché vif, super, super, super. Oh, impuissant. que je suis. Comme le, regardez le pape, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse au milieu de ce boxon? Impuissant. Impuissant.
Mais, en étant impuissant, il sauve le monde. C'est une plaie béante. Et le pape Paul VI, c'était pareil, croyez bien, ça je me rappelle. Moi, il faudrait faire une espèce de... Pas envie de vous faire la description, parce que c'est trop émouvant, hein, Paul VI. Moi, je peux pas, parce qu'il faut quand même pas pleurer dans un micro. Moi, ça me touche beaucoup, ça. C'était fou, quoi. Je m'excuse à chaque fois, je peux pas. Voilà, je m'excuse, il faut que je fasse attention. Seigneur. Réveille-toi, acte d'adoration. Ah, acte d'adoration. Vous voyez? Et le baromètre maintenant. Pour l'esprit de pauvreté, nous avons donc, pour rester dans un état d'esprit de pauvreté, alors voyez, vous faites des actes d'espérance. Et pour que cet acte d'espérance se prolonge, se continue toute la nuit pendant que vous dormez, pendant le repas, etc. Ça, vous ne pouvez pas faire des actes d'espérance à chaque... C'est pas possible. Donc vous faites un acte d'espérance une fois de temps en temps. Je reçois en ce moment toutes les grâces, la plénitude de tes grâces, et le bonheur éternel dans l'autre, là, ils sont en train de passer. Maintenant, en ce moment, formidable. Dans cette pauvreté infinie qui est la mienne. Je dis bien, la pauvreté infinie qui est la mienne. Et puis, après... Je reste ouvert et je laisse les torrents de cette grâce continuer à s'écouler. Et pour que les torrents de cette grâce continuent à s'écouler, ben, j'apprends, je m'entraîne, je vous l'ai dit, par, c'était ce que nous avons dit le dernier moment, par les temps d'oraison. Je m'entraîne là, par 5, 6 ou 7 fois par jour, des actes ponctuels d'adoration. Je dépends totalement de Dieu, c'est Dieu qui fait tout à travers moi. Des actes de respiration d'air frais. Des respirations d'air frais pour sortir du repliement sur moi-même, et pour sortir du repliement sur moi-même, c'est-à-dire pour ne pas avoir une religion, pour ne pas être dans la religion, narigus, pharisien. Et se complaire dans ses vertus religieuses, eh bien, et se complaire au contraire dans son impuissance, eh bien, et on va faire des actes de respiration surnaturelle, c'est-à-dire qu'on va s'accrocher de l'intérieur à Jésus crucifié. Quand de l'intérieur, c'est Jésus crucifié qui est en moi, qui gémit et qui s'empare de l'intérieur, de toutes les pores de ma peau. Alors à ce moment-là, c'est l'immense respiration surnaturelle. Ne pas se mettre devant Jésus crucifié, mais que Jésus crucifié soit la respiration intérieure de tout mon être intime et intérieur, corporel, physique, affectif. Vous voyez, des grandes respirations. Je suis transformé en croix. Je suis transformé en plaie vivante. C'est la grande respiration d'air frais, ça. Qu'est-ce que ça fait du bien? Alors, les torrents d'eau vive. Comme disait le père Dominique ce matin, les torrents d'eau vive. Les torrents d'eau vive. Qui jaillissent du sein du Christ. Sont là. Ça, c'est des actes ponctuels qui font que du coup, il va y avoir un climat toute la journée, qui va finir par s'installer. Et qui va se caractériser par une espèce de climat d'obéissance intérieure. On a toujours envie de ne pas obéir à soi, mais d'aller toujours au devant de Dieu. C'est un climat habituel, toujours aller au devant de Dieu, qui est toujours quelque chose au devant. C'est vrai, c'est ça, un climat d'obéissance intérieure. Alors pour ça, du coup, il va y avoir ce climat, et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, toujours être à la place la plus blessante, la place la plus pauvre. Il faut qu'une fois, au moins, dans chaque journée, pour quelqu'un qui vit de l'esprit de pauvreté, il choisisse la place la plus humiliante, la place la plus pauvre. Pas la plus humiliante, la plus humble. Vous voyez? Ça, c'est important, ça. Spiritualité de la dernière place. Évidemment, vous ne pouvez pas toujours prendre la dernière place.
Si tout le monde prend la dernière place, vous voyez, tout le monde en troisième classe, et puis on est serré, quoi. Et puis dans le wagon première classe, wagon deuxième classe, personne. C'est terrible, ça. Non, c'est au niveau du désir. Je désire d'être à la dernière place. Il faut faire ces actes intérieurs de désirer d'être... Quand t'écoutes pas, quoi. Je le désire profondément, ça. Il faut le désirer. Dire, vraiment, il faudrait que... Il faut sentir ça, voyez. Je veux être à une place pauvre. Et vous voyez, c'est simplement le fait de le dire. Parce que fondamentalement, humainement, on ne le veut pas, si vous voulez. Je crois que c'est vrai. Psychologiquement, on ne veut pas ça. Mais c'est pour ça que c'est un climat intérieur où, à force de faire d'être dans cet esprit de pauvreté, on repère si oui ou non, on est capable d'aimer d'être à la dernière place. De désirer être à la dernière place. Désirer être petit, quoi. Être silencieux. Être caché. N'avoir aucun rôle extérieur. Et que ce soit uniquement la fécondité divine, voyez, qui du coup prenne la place. C'est cette espèce de désir qu'il n'y ait aucune efficacité de notre côté et qu'il y ait du coup la fécondité de Dieu. La fécondité de Dieu est l'ennemi juré de l'efficacité humaine, même sur le plan religieux. Rappelez-vous cette formule, elle est très importante. La fécondité divine est l'ennemi juré de l'efficacité humaine, même religieuse. Saint Jean dans l'Apocalypse l'explique au moins à 5 reprises. L'efficacité humaine religieuse, c'est l'esprit de l'Antéchrist. C'est Jézabel. La fécondité divine, c'est la spiritualité du désir d'être à la dernière place. Parce que dans la dernière place, on est dans le cœur de Jésus qui n'a plus aucune efficacité. Il ne peut plus ressusciter les morts, il ne peut plus guérir les malades, il ne peut plus convertir les païens. Et c'est là qu'il féconde tout. C'est là qu'il donne l'eau, le sang, les sacrements, l'Esprit Saint. C'est fou, quoi. Oh là 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 là. C'est beau, ça. Alors, c'est important, voyez, ça c'est au désir. La cesse du jugement téméraire. À chaque fois, quand je me surprends, dans chaque journée, hein, à chaque journée, à cesse du jugement téméraire, c'est quoi? Ça veut dire que, on est en train de parler de la spiritualité, hein, spiritualité de l'espérance. Les petits actes sur lesquels il faut faire attention. Il faut y penser. Tiens, quand je dis, tiens, j'ai un jugement téméraire, je me dis, mais lui, tiens, il est en train de vraiment, il a de la haine, là. Il a de la haine, celui-là. Il est pas charri, il pratique, là. Vous voyez? Il est mauvais, quoi. Ma femme, là, elle est mauvaise, hein. Elle a vraiment mauvaise volonté, hein, ma femme. Bon, c'est pas toujours faux. Mais jugement téméraire, vous voyez. Jugement téméraire, dès qu'on se surprend à faire un jugement téméraire, on dit, tiens, là, il fait ça parce qu'il veut se gonfler. Attention, ça c'est un jugement téméraire. Vous n'en savez strictement rien. Tiens, il fait ça parce qu'il veut se défiler. Vous n'en savez strictement rien. Il fait ça parce qu'il n'a pas la foi. Vous n'en savez strictement rien. Jugement téméraire. Il fait ça parce qu'il a peur. C'est pas vrai. C'est peut-être pas vrai. C'est peut-être ça parce qu'il a la grâce, justement. Et que moi, j'ai certaines choses que je vois pas. Jugement téméraire. Eh oui. Eh bien, à chaque fois qu'il y a jugement téméraire, il faut le repérer, il faut dire « Ah, non !» Il faut faire un exorcisme. Arrière, Satan. Je ne suis rien. Et Dieu. Une attention, alors ça c'est un effort à faire vis-à-vis de notre prochain. faire au moins une fois un acte comme ça, est-ce que dans la journée, j'ai été vis-à-vis de celui que Dieu a mis proche de moi, mon enfant, la femme de ménage, mon mari, je ne sais pas moi, mon... Vous comprenez ? Le flic qui m'a arrêté. Non, juste le papier. Au moins avec une personne, est-ce que j'ai fait un effort d'être attentif, vous voyez, attention joyeuse, admiratif, pour essayer d'admirer ce qu'il était. Une attention, je trouve en fond une joie suffisante pour admirer ce qu'il est et que d'être heureux qu'il passe devant moi parce qu'il a vraiment des choses admirables que moi je n'ai pas. Est-ce que et surtout avec ceux qu'on ne trouve pas admirables, hein. Évidemment. Quelqu'un qu'on trouve admirable, parce que c'est tellement évident, ça. Mais une attention admirative et joyeuse, au moins une fois, dans la journée, au moins une fois. C'est admirable. Et puis je lui passe devant parce qu'il a des qualités que je sais pas. L'autre a toujours. Ça, si vous dites, mais non, ce serait faux de dire ça, serait... Si je fais ça, ce serait pas juste, puisque je le pense pas. C'est ce que tu penses qui compte. Hein. C'est ce que tu penses, la vérité, quoi. Ça, c'est pas mal. C'est incroyable. Moi, je pense que vraiment, il n'est pas admirable. Donc, il n'est pas admirable. Non, mais faut être vraiment calu, hein, pour penser comme ça. On est transformé en passoire, quelquefois, vous savez. Mais l'autre est admirable. Tout le monde est admirable. Admirable. Et l'admiration. Mais au ciel. Pourquoi est-ce que c'est lié à l'espérance, ça? Parce que quand on sera au ciel, et on est déjà au ciel, et on s'entraîne à vivre du ciel, non seulement on s'entraîne, mais le ciel est déjà là. Et bien au ciel, on sera tous au ciel. On est tous au ciel. Le bon Dieu nous aime, il nous prend dans son ciel, et son ciel est en nous, quoi. Alors évidemment, et chacun va avoir une sainteté étonnante. C'est extraordinaire, la petite violette. Moi, qu'est-ce que j'aime, le parfum de la violette. Mon Dieu, cette violette, c'est admirable. Admirable. Bon, les gens aiment bien les roses, ça sent bon. Le lys, c'est beau aussi. Mais la violette est beaucoup. Si je suis le lys, je peux quand même être capable de voir que du côté du charme de la violette est beaucoup plus admirable que moi. Elle a un parfum, une couleur, une petitesse, un enchantement que je suis incapable de donner en tant que lys. Et la violette, réciproquement, quand elle regarde le lys, elle dit, c'est fou, quoi. Et au ciel, ce sera comme ça. C'est que la gloire de Dieu se donnera à l'infini à chaque saint, en plénitude à chaque saint. Et chaque saint, d'une manière tellement admirable, est différente des autres, que les autres seront dans l'admiration. Parce qu'ils n'ont absolument pas cette gloire-là. Pour glorifier Dieu, c'est fou, quoi. Cette sainteté-là, mon Dieu, tu te rends compte. Oh, la sainteté du bon là. On va être éperdument admiratif. Et dès maintenant, c'est le cas. L'autre a une sainteté, vous voyez, admirable. Et si je regarde avec attention la sainteté qui se déploie en lui, cachée sans doute à ses propres yeux, même sûrement, alors à ce moment-là, je rentre dans la spiritualité de ce Père. Si je ne le fais jamais, c'est sûr que j'ai abandonné totalement le Christ. C'est un signe. Et donc, que mon frère est sujet de désespoir pour moi, et donc que je suis pris par l'esprit de Sartre, et pas par l'esprit du Christ. L'autre n'est pas admirable pour Sartre. Voyez. Alors vous avez Une attention joyeuse et admirable. Alors, du coup, il passe devant, parce qu'il a des qualités que je n'ai pas. Les humiliations. Et je remercie le bon Dieu pour cette occasion. À cette occasion, je remercie le bon Dieu. Et si jamais une seule fois dans ma vie, j'ai accepté une humiliation, et j'ai remercié pour cette humiliation, et encore mieux, que j'ai redemandé une humiliation similaire, c'est que c'est sûr que je n'ai jamais fait l'expérience de l'espérance surnaturelle, chrétienne. J'en suis sûr. Et c'est pas du masochisme, vous comprenez, parce qu'une humiliation, c'est quelque chose... C'est normal qu'il y ait une humiliation. Jésus, il a été humilié. Et c'est très bien. C'est une humiliation, c'est normal. C'est normal qu'on soit ramené à la terre, qu'on soit ramené à la base, qu'on soit ramené à l'aspect basique, si vous voulez, à notre vocation qui est justement très humble, très petit, très pauvre, tout entier dans les mains de Dieu, tout entier emporté en dehors de cette terre, mais à partir de cette terre. Et c'est l'humiliation qui permet ça. C'est grâce à l'humiliation qu'on peut rentrer précisément dans cette immense liberté de la création du Père. Vous voyez, c'est pour ça que le climat intérieur personnel est caractérisé par l'obéissance intérieure, je vous l'ai déjà dit. La fuite de toute occasion de luxure. Luxure, c'est une faute contre le corps, avec la sexualité notamment, l'imaginaire, le fantasme charnel. Et à cause de ça, c'est vrai, saint Thomas d'Aquin dit bien que les péchés qui sont directement contraires à l'espérance, du point de vue moral, sont la luxure, la pusillanimité, le désespoir. Le désespoir. Alors, vous voyez, il faut être capable d'organiser sa vie pour qu'on ne soit plus trop tenté du côté de la luxure. On organise sa vie de manière à ce que, que les tentations ne viennent pas nous mordre de trop près. Je ne dis pas de ne pas tomber, je dis qu'il y a tentation ne viennent pas. Les occasions de luxure. C'est normal parce que les occasions de luxure font que si on se met tout le temps dans l'occasion de luxure, même si on ne tombe pas, hein, c'est ce que dit saint Thomas d'Aquin, mais pas seulement saint Thomas d'Aquin, tous les pères, sans exception. Si on reste dans l'occasion de la luxure sans tomber, hein, alors on se dit c'est admirable. Seigneur, c'est admirable, regarde, je tiens le coup. Alors, et puis Jésus dit, vipère, scorpion, hypocrite, menteur. Alors, c'est nerveux, quoi. Je suis pas tombé. Qu'est-ce qu'il dit? Je croyais qu'il était content. Je suis pas tombé. Tu restes dans les occasions. Et pourquoi c'est mal? Parce que c'est contraire à l'espérance. Pourquoi c'est contraire à l'espérance? Ah, c'est contraire à l'espérance. Parce que du coup, tu luttes. Tu es obligé tout le temps de lutter. Donc, tu es toujours lié aux choses terrestres. Et ça, c'est contraire à l'espérance. L'espérance, c'est d'être lié aux choses célestes. C'est être lié à la béatitude de Dieu. Donc, je me sépare des occasions de luxure. Hein? C'est sûr. Ouais, faut bien que je me rince l'œil. Hein? Non. Non. C'est les occasions. C'est une très... grande illusion quoi, du démon, ça. Parce qu'il veut par des ruses, si vous voulez, qu'on reste quand même occupé aux choses terrestres. Ah, c'est bien, mais je lutte contre, justement. Donc tu t'occupes de ça. Et c'est ça, ça montre bien que l'espérance est au-dessus de la morale. C'est bien au-dessus. L'espérance nous met carrément au-dessus. Et donc si on n'a pas, vous voyez, la fuite de toute occasion, la magnanimité. Ah, faut faire des actes de temps en temps de magnanimité. La magnanimité. Ah oui, faut être magnanime. C'est Saint-Benoît, vous dites ça. Si tu es humble, si tu es petit, si tu es pauvre, alors à ce moment-là, tu vois les choses en grand. Tandis que si tu es présomptueux, tu es un petit peu en regardant, scrupuleux, mesquin. Pour voir les choses en grand, pour avoir une ambition surnaturelle, faut tout prendre en Dieu. L'acte d'espérance permet de recevoir, pas ma petite grâce, Seigneur, j'espère profondément qu'en ce moment tu me donnes ma petite grâce dont j'ai besoin. Ma petite grâce dont j'ai besoin. Arrête. Arrête. Ma petite grâce dont j'ai besoin. Ouais. J'ai pas eu mon apparition aujourd'hui. Ma petite grâce dont j'ai besoin. C'est fou, quoi. L'acte d'espérance, une confiance totale qu'en ce moment passe à travers moi toutes les grâces qui sont sorties de tes mains depuis le début, de la création du monde jusqu'à la fin du monde, et toute la béatitude de tous les saints. Tout un... Là, en ce moment, c'est en moi. Ça passe, ça traverse à moi, réellement, réellement, absolument, complètement, intégralement. En ce moment, j'ai une confiance totale qu'en ce moment, tu me donnes toutes les grâces de ce monde et tous les bonheurs et toutes les béatitudes de l'autre monde en cet instant maintenant, là, tu le fais. Gloire à Dieu. Oui, et il faut être magnanime, il faut voir les choses en... C'est Père Emmanuel qui disait ça.
La magnanimité. Enfin, si vous êtes comme moi, humble, parce que question d'humilité,
c'était mon vieux père spirituel, qui était ermite aussi, n'est-ce pas?
Je vais, voilà, c'est sûr, c'était formidable, mais j'ai fait un rêve la nuit dernière, et je vais te le dire, j'ai assisté à ma canonisation. J'étais vraiment, c'est vrai, j'étais en rentrant dans un bien-dorme et arrivé, toi tu dirais, au 542e mètre. Non, ta gueule, j'étais encore des mensonges. Là, l'endroit où il y a Saint-Jean Bosco. Là-haut. Moi, j'étais là-haut. Oui, Saint-Jean Bosco, j'étais là, il y avait Saint-Père, il y avait une foule. Une immense foule. Et c'était pour laquelle. Une foule immense. C'est bon. Ça doit être un saint immense. Et il est en train de canoniser Saint-Père, il est en train de canoniser quelqu'un. Dit, moi, j'étais là-haut. Parce que je vais lâcher un peu le vertige. Il dit, mais qui est-ce qui peut bien te canaliser là? Et puis, puis je vois des. Et puis à un moment, ils disent, c'était moi. Oh! Alors, c'est moi! Alors, j'ai entendu la cause de ma canalisation. Alors, le Saint-Père dit, propter maximum, humilitatem soit. Alors, propter maximum, humilitatem soit, et quelqu'un qui est petit, qui est humble, qui vit d'expiation, de réparation. À ce moment-là, il voit les choses en grand. Il ne dit pas 1 plus 2, moins 12 plus 4, ah!
L'humilité, la vie de l'humilité, c'est la magnanimité. En y être disponible, c'est ce qu'il y avait dans la règle des ermites de Montmorin, c'est par le Père Emmanuel. Une seule règle, la disponibilité, c'est-à-dire la disponibilité, être prêt à, pour que Dieu fasse tout. Disponibilité, pour que l'autre me se serve de moi aussi. L'humilité fait qu'on voit les choses
largement, en grand.
C'est beau ça, la magnanimité, faut s'en rappeler. Hein. Le monde dans lequel nous sommes, nous l'aimons. Mais le monde dans lequel nous sommes aura une fin. Et il n'en restera rien. Il aura une fin, un terme, et tout sera brûlé. Il ne restera plus que ce qui a été pris par Dieu, et ce qui s'est laissé prendre par Dieu. Tout ce qui... L'homme, Dieu aime l'homme, mais il n'aime pas l'homme qui n'est pas humble, parce que l'homme qui n'est pas humble ne voit pas les choses en grand, et donc Dieu ne peut pas le prendre. Et l'auto-réalisation humaine en ce monde, c'est de la petitesse. C'est de voir l'homme à la mesure de l'homme. Alors que la vraie grandeur de l'homme, c'est que c'est une créature que Dieu aime et qui devient Dieu lui-même à l'intérieur de Dieu. La terre. Ah oui, ça c'est joli aussi. Par action de grâce dans nos repas et activités sensibles. Dans les repas. Alors, vous voyez, on a la télévision, on a la radio, on a la musique, on a les repas, l'eau, le vin, le whisky, les cigarettes, et le tout ça. Excellent, excellent. Moi, je vous dis pas, je vous dirai pas, allez, vous arrêtez tout ça. Non. Mais, une fois par jour. Une fois par jour. Au moment, tiens, vous mangez un verre de vin. Une fois par jour, je retire. Pas beaucoup, mais une fois par jour, je retire un petit truc. Parce que moi, je vais vous dire une chose. Il faut être simple dans la vie. Si par exemple, j'en peux plus, il y a des gens comme ça, ils fument, il vaut beaucoup mieux fumer que de faire un acte d'angoisse, de révolte, de repli sur soi. Il hein, faut être intelligent, hein, je veux dire, quand même. Hein. Mais une fois par jour, oui, j'arrête. Je diminue un peu. Par exemple, je prends de l'eau, je bois. Tiens, un repas. Je mets de l'eau dans mon verre, je prends une gorgée. Tiens, si je me laissais faire, j'en prendrais deux. Ah, mais j'y pense à ce moment-là. Je prends une gorgée, j'arrête, je pose. Voilà, je l'ai fait. Ça m'arrive jamais. Hein, c'est spiritualité. Voyez, c'est, j'essaye de voir si je peux. Assez par action de grâce. Non, pas. Initiative accueillante du sourire. Ça, c'est le charisme des foyers de charité. Vous voyez, initiative accueillante du sourire. C'est super, ça. C'est bien le sourire, vous savez. Je vais lui sourire. Je vais pas forcer. Attention, hein. Pas forcé et contraint. Ah, toujours pareil, vous vous rappelez? Si c'est forcé et contraint, ça vous décourage et ça devient une grimace. Ça devient une grimace. Mais par contre, si tu fais un acte d'espérance, que tu es pauvre, et que tu es une plaie vivante, et que lui il arrive, ah, t'es content. C'est pas forcé, c'est automatique. Générosité de l'hospitalité à mille portes. Il faut avoir ça comme spiritualité. Un pauvre est disponible, il attend que quelqu'un passe. Il est disponible. Si quelqu'un passe, il n'est pas dérangé. La disponibilité, on est disponible. On est disponible, bon, si quelqu'un passe, on n'est pas dérangé. On est disponible, c'est-à-dire on est prêt à ce qu'on serve de nous. On y est prêt. On n'est pas là à vouloir avoir son le ronron du chat. Vous savez. Alors, je m'excuse, en ce moment je fais oraison de quiétude, de quiétisme. Je suis en train de faire oraison dans mon fauteuil et c'est pas bon. C'est. Et puis, ring. Oh, quelle danse dans mon horizon.
C'est terrible, ça. C'est fou, quoi.
La disponibilité. C'est une spiritualité, la disponibilité. C'est quelque chose de très, très, très amusant, vous voyez, de comprendre ça. Lorsqu'on est seul, si vous voulez savoir si votre solitude est un péché ou une sainteté, c'est facile. Ou bien votre solitude est habitée, vous êtes dans une solitude habitée, vivante, lumineuse, féconde, admirative, pauvre, sainte, c'est Dieu. Là. Ou bien votre solitude est stérile. Tricot stérile. C'est une blessure, en fait. À quoi vous reconnaissez ça? Vous reconnaissez ça à ce que vous savez que si quelqu'un vous demande un service, aussitôt vous y allez. Vous êtes prêt. Ce qui ne veut pas dire que si quelqu'un vient, vous irez aussitôt. Hein. C'est au niveau du désir. Attention, hein, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est au niveau du désir, parce que quelquefois, votre devoir d'État exige que vous mettiez la priorité à l'horizon. Mais au niveau du désir, si quelqu'un vient me déranger, oh, vous voyez, c'est tout de suite, je vais y aller. C'est le désir que j'ai, c'est ça qui m'habite. Si on me demande d'aller passer la serpillière, d'aller cueillir les cerises du voisin, je... ou un tas de choses comme ça. Ouais. Pratiquer, alors il faut aussi pratiquer donc, la joyeuse pauvreté dans une vie de prière. Donc vous voyez ici, c'était le premier chapitre de la spiritualité, de l'esprit de pauvreté, c'est la résistance aux idéologies contraires. On est imbibé d'une spiritualité anti-adoration, d'une spiritualité anti-liberté profonde, etc. Et il ne faut pas que ce soit seulement des actes de résistance à l'anti-espérance, il faut aussi que ce soit un approfondissement à l'espérance. Et donc, dans cette pratique joyeuse de l'espérance, eh bien, il y a plusieurs critères que nous allons pouvoir lire. Je vais le lire plus vite cette fois-ci, parce que si à chaque fois je suis aussi long, j'arriverai jamais à rentrer dans ce que nous voulions faire pour cette retraite. En gardant jalousement des moments de soif et de dépendance à Dieu seul, l'oraison se manifestera et je choisirai un climat d'oraison spécial à l'espérance. Ce sera un climat d'humilité fervente. L'humilité fervente, c'est un terme technique qui veut dire « j'accepte dans l'oraison d'être dans un état de nudité fervente, dans un état de faiblesse fervente. Je suis dans un état d'aridité fervente, je suis dans un état de nuit fervente, je suis dans un état d'humilité fervente. » Mais je ne sais pas, c'est ce climat qu'il faut comprendre. Je suis sans désir. Seigneur, je suis sans désir. C'est formidable. Voyez ? Sans désir, mais fervent. Je suis pauvre. J'en peux plus. Je peux rien. Je peux pas prier. Mais ça, c'est formidable.
Oh, oh, oh. C'est toi qui parles. Toi qui passes et oh, et puis je passe à travers. Et c'est pour ça que vous pouvez pour vous rendre compte qu'il passe, quoi. Pour rappeler qu'il passe. C'est pas d'imagination. Vous voyez ? Et c'est une humilité fervente, c'est un climat, c'est ça, vous voyez ? Alors à ce moment-là, si vous faites ça, vous verrez que c'est plus possible. Vous constatez ça, c'est l'expérience. Si on fait des oraisons, si on a fait une oraison d'humilité fervente pendant une demi-heure de suite dans la journée, c'est impossible que vous ayez quelque chose, quelconque jalousie dans votre cœur.
Ah, ça c'est sûr, ça c'est classique. Si quelqu'un fait une oraison d'humilité fervente, et puis qu'il se trouve avoir des phénomènes de jalousie, vous savez, jaloux, quoi. Tu dis, oh, celui-là, passe devant moi, celui-là. Alors là, ça, c'est que vous n'avez pas fait oraison. Dans l'humilité fervente. Ah, ça, c'est l'exorcisme de la jalousie fraternelle. Et vous savez que dans les communautés, c'est la jalousie qui divise les familles et les frères. C'est le seul chose qui divise. Qui divise vraiment. Elle nous fait rentrer dans l'esprit de pauvreté, la vie de prière de l'esprit de pauvreté va nous faire rentrer dans la contemplation des attributs divins. Parce que vous dites, ben voilà, lorsque, il y a quand même un moment de contemplation. Je fais des actes de foi, pauvreté, etc. Et puis après, c'est Jésus qui prend tout. Jésus est entièrement dans le sein du Père et c'est simple. Et la première chose que je regarde, c'est la simplicité. C'est la simplicité de Dieu. C'est son omniprésence. C'est sa majesté souveraine. C'est ça les trois attributs auxquels je vais essayer d'être le plus sensible. La simplicité de Dieu. Comme c'est simple, Seigneur, comme tu es simple. Comme je désire voir à quel point tu es simple. Comme je désire à quel point tu es partout présent dans cette simplicité infinie et d'amour. Cette perfection. Pour passer progressivement à nous abandonner dans cette simplicité infinie d'amour de Dieu et de manière que ce soit cette simplicité qui nous transforme pendant une demi-heure. Vous voyez ? Et que du coup, cette simplicité nous mette dans le repos de Jésus crucifié après sa mort. Quand Jésus crucifié après sa mort est dans un état de simplicité où toute la divinité passe à travers cette simplicité du don du Christ qui n'a pas voulu que ce soit compliqué par la présence de son âme, même sainte. Jésus a voulu que le don simple de la simplicité éternelle de Dieu ne soit pas troublé par la présence de son âme. L'âme du Christ est infiniment sainte. Et il ne fallait pas que le don de Dieu soit troublé par la présence de l'âme humaine du Christ, toute sainte qu'elle fut. Le Christ ne s'est jamais complu dans sa sainteté humaine. Pourtant, il était quasiment infiniment saint. Il a attendu que son âme humaine soit arrachée. Dieu qui passe à travers ce qu'il y a de plus pauvre dans la pauvreté de la mort. Quand je suis rendu dans l'horizon à l'état cadavérique, il n'y a plus que ça. Cette impuissance absolue, totale. À ce moment-là, cette simplicité de Dieu, le don de Dieu au monde, se fait en toute simplicité, en toute perfection, en toute plénitude, en toute surabondance. Et c'est ça que je alors, une fusion. Et donc toutes nos angoisses à ce moment-là, souffrances, déchirures corporelles, humiliations, sont transformées en cris de soif. En cris de soif. Pour qu'il n'y ait plus que le Père. Dans toutes les pauvretés humaines. Et enfin, la joyeuse humilité accentue la prière commune et la participation à la prière communautaire. Oui, pourquoi ? Parce que quand je prie tout seul, je prie à mon rythme. Je prie à mon rythme. Vous voyez ? Je prie en fonction de ma spiritualité, de ma sainteté, de ma conception de la prière, de ma vision de la véritable liturgie. Sachant bien entendu que les autres ne sont pas véritables, sous-entendu, n'est-ce pas ? Terrible, ça. Et c'est pour ça, la prière communautaire, c'est important, vous voyez. Voilà, on rentre dans une communauté, et bien on prie avec cette communauté. Et au lieu d'être dans le jugement téméraire, l'exorcisme du jugement téméraire. Ça, c'est le démon. Arrière Satan. Et on rentre dans la substance infiniment juste et parfaite des paroles qui sont prononcées par la communauté. car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. C'est parfaitement juste. Hein? C'est ça. Alors, donc c'est bien qu'il faut aller à la prière eucharistique, communautaire. Pour ça, ceux qui ne sont pas pauvres au niveau de la grâce, eh bien, ils préfèrent aller dans l'église quand ils sont tout seuls. Hein? Quand il y a du monde, quand il y a la messe, ils ne veulent pas, moi. Moi, je ne ressens rien à ce moment-là. Mais quand il n'y a personne, qu'est-ce que je prie bien, que je suis tout seul. Hein? C'est vrai, ça. Et la liturgie, c'est pareil, je préfère dire la liturgie quand je suis tout seul, non? Et l'adoration du Saint-Sacrement, ah, quand je suis tout seul. Mais non, en communauté, c'est merveilleux, en communauté. Pourquoi? Parce que quand on dit le chapelet, par exemple, je dis le chapelet, qu'est-ce qu'il vaut mieux dire, chapelet tout seul ou chapelet en communauté? Il vaut mieux dire en communauté. C'est plus pauvre. C'est plus pauvre et c'est plus fécond. Pourquoi? Parce que quand je dis le chapelet, eh ben, je contemple, c'est en fonction de mes mystères, c'est moi qui rentre, c'est merveilleux, quoi. C'est beau, et j'aime bien. Je ne dis pas que c'est mauvais, c'est pas mauvais du tout du point de vue de la foi. Mais du côté de l'espérance, il vaut mieux le vivre en communauté. Pourquoi? Du côté de l'espérance, du côté de l'humilité, du côté de la pauvreté, du côté de la fécondité, il vaut mieux que ce soit en communauté. Voilà. Pourquoi? Parce que dans la communauté, on est ensemble, on fait vase communicant, et c'est celui qui a le plus de ferveur dans la communauté qui mérite les mêmes grâces que celles qu'il reçoit pour tous ceux qui font le chapelet. Voilà. Et tandis que je suis tout seul, bon, ben, c'est bien. Ça me fait du bien, c'est très bien, je glorifie Dieu, ça c'est certain. Mais en communauté, quand je dis le chapelet, vous voyez, si on est par exemple 30, et qu'on le dit de notre mieux, et celui qui a le plus de ferveur obtient une surélévation à l'intérieur de Dieu, une pénétration de Dieu dans tous les cœurs qui célèbrent les mystères du rosaire avec lui, et vous recevez les grâces de celui qui a le plus de ferveur. Mais vous ne ressentez rien. Puisque c'est celui qui a le plus de ferveur. Et donc la grâce ne vient pas de vous. Elle vient d'un autre. Non seulement de Dieu, mais d'un autre. Je préfère tout seul. C'est mieux. Je me sens mieux. Je me sens mieux. Oui. Et c'est pour ça que quand on fait ça, on devient plus instrument de Dieu. On devient beaucoup plus instrument de Dieu. On n'est plus cause première, on n'est plus cause efficiente, on n'est plus cause seconde. C'est plus nous, quoi. On est instrument, enfin participe. On est usé, utilisé par la communauté de manière qu'il y en ait un ou deux, trois qui nous fervent au maximum. Et du coup, vous voyez ? Et à ce moment-là, effectivement, la sainteté s'empare de moi et glorifie Dieu. Et il y a une plus grande humilité. Il faut s'enraciner dans la vertu d'humilité et dans l'espérance pour une intériorité belle, pure, intense, subjuguée par l'amour. Et pour ça, il faut pour rentrer dans cette intériorité, il faut choisir ses lectures. Vous voyez ? Année 1999, ne prenez pas n'importe quelle lecture. Ne prenez pas n'importe quelle lecture pour alimenter votre spiritualité de l'année 1999, que le Saint-Père a consacré à l'espérance. Alors, lisez l'Apocalypse. C'est le livre de l'espérance. C'est le livre des pauvres. Pourquoi? Parce que quand je le lis, je n'y comprends rien. Et pourtant, si je suis dans l'orgueil, si je suis dans l'angoisse, si je suis dans le désespoir, si je lis l'Apocalypse, comme ça, à haute voix, comme ça, dans ma chambre, plus d'une demi-heure, il n'y a plus d'angoisse, il n'y a plus de désespoir, il n'y a plus d'orgueil. C'est un fait. Plus besoin d'antidépresseurs. Tu lis l'Apocalypse. Celui qui lit l'Apocalypse une demi-heure et qui a encore une angoisse, qu'il vienne me voir, il m'intéresse. J'ai jamais vu ça. Jamais. Ah, faut pas le lire comme ça, hein. Ça, les cursives, là, bon. Non. Faut faut le lire, parce que c'est Dieu qui est dedans. Vous comprenez, c'est Dieu qui est dedans, l'Apocalypse. C'est fou, l'Apocalypse. C'est complètement dingue, l'Apocalypse. C'est complètement ahurissant, l'Apocalypse. C'est complètement époustouflant, incompréhensible, admirable. Là, t'es obligé d'admirer, tout le monde. C'est fou, quoi. C'est vrai, ça. C'est fou, là. Je me retournais pour regarder la voix qui me parlait. Et m'étant retourné, je vis 7 menorahs d'or. C'est quoi, des menorahs? Entourant comme un fils d'homme, revêtu d'une longue robe serrée à la taille par une ceinture en or, sa tête avec ses cheveux blancs et comme de la laine blanche, blanche comme de la neige, et ses yeux sont comme une flamme ardente, et ses pieds pareils à de l'airain précieux que l'on aurait purifié. Une demi-heure, c'était comme ça. Alors là, ça, c'est radical. Montée du Carmel de Saint-Jean de la Croix. Une très, très belle lecture pour être pauvre. Montée du Carmel, Saint-Jean de la Croix. Règle de Saint-Benoît, les 12 degrés d'humilité. Excellent. Les petits Fioretti de Saint-François d'Assise, ça c'est pour pouvoir contempler la simplicité, la perfection et l'omniprésence de Dieu. Saint-François d'Assise. Il faut fuir les péchés contraires. La luxure, voilà, c'est ça, je cherchais le quatrième tout à l'heure. L'acédie. A-C-E-D-I-E. Voilà les trois péchés contraires avec le désespoir, l'orgueil, la luxure et l'acédie. Alors l'acédie, c'est quoi? C'est une faute très très curieuse, un péché gravissime qui déracine toute possibilité de vivre dans la joie. C'est son fruit immédiat. Et comment est-ce qu'on tombe dans ce péché, n'est-ce pas ? On tombe dans ce péché lorsque la prière me dégoûte. Ça me donne un dégoût, j'ai pas envie. Ça se caractérise comme ça, hein, comme climat, l'acédie. L'acédie, c'est la prière me donne aucune dégoût. Je n'y arriverai pas. Je désire, c'est certain. C'est surtout chez les novices qu'on a ça, chez les commençants et chez les progressants. Chez les progressants, le démon nous terrasse par l'acédie. On est terrassé par l'acédie. C'est le syndrome de la valise, c'est de l'acédie que vous aurez mercredi, jeudi. Faites attention, faites très attention, il faut repérer. L'acédie, c'est extraordinaire, l'acédie. Je pense que c'est que, voilà, vous avez le désir d'aimer Dieu. C'est pas que vous n'ayez pas le désir d'aimer Dieu, j'ai un grand désir d'être tout à Dieu, un grand désir, mais... Oh là 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 là! Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est exigeant? Quelqu'un qui m'a fait un tapis tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est dur de devenir un saint? J'ai le désir, mais j'y arriverai jamais. Je peux pas y arriver, quoi. Jamais! Bon, Thérèse de Lisieux, d'accord, elle a eu la grâce qu'il fallait, quoi. Moi, j'aimerais tellement être comme Marthe, mais oh non, souffrir comme elle, je pourrais pas. Comment ? Je pourrais pas souffrir comme Marthe. Mais tu crois que Marthe s'est appuyée sur ses propres forces ?
pas taré, non?
Là, c'est dit, c'est... Moi, je pourrais jamais y arriver. J'y arriverai jamais. C'est trop dur, c'est trop exigeant, c'est trop fort, c'est trop... Alors du coup, vous voyez, c'est un péché direct contre l'espérance. L'espérance, c'est dire, tout est possible pour celui qui espère. Toutes les grâces de Dieu sont passées par moi, elles y sont toutes dotées. Je suis prêt à toi, Seigneur. L'acte d'espérance est essentiellement ça. Et du coup, on est heureux d'avoir toutes les saletés là, qui sont là dans notre cœur, en puissance, et peut-être actuées d'un seul coup. Quand Dieu veut, on y est. Et si on ne fait pas des actes d'espérance, alors à ce moment-là, on se ramène à nos forces. Et nous, moi-même, je ne pourrais pas. J'aimerais bien, mais je ne peux pas. Je ne pourrais pas. Mais Dieu le peut. Ne regarde pas. Toi, regarde Dieu l'espérance, regarde Dieu directement. Et c'est avec la puissance de Dieu, dans ton impuissance, que tu as la joie d'appartenir à Dieu. Et voyez bien que du coup, si on ne refait pas ces actes d'espérance avec une très grande confiance, alors à ce moment-là, on finit par tomber dans cette espèce de d'avachissement. Oh. Oh. Non, j'en peux plus. On a le dégoût des choses spirituelles, on finit par avoir le dégoût des choses spirituelles. C'est un péché mortel, hein, là c'est dit. Péché mortel, hein, là c'est dit, un péché mortel. Hein. Matière grave. Il faut s'en confesser. Il faut dire non, j'espère. Non! La luxure, je vous l'ai expliqué, c'est des choses terrestres. Du coup, on est attaché à un bonheur terrestre, à un bonheur passager, à un plaisir passager. Vous voyez ? Parce qu'il n'y a pas que la grosse luxure. Hein. Je ne parle pas que de la grosse batterie, moi. Hein. Bon, on est attaché, hein, ça, j'aime bien quand même en présence, quoi, sentir quand même que, hein, sentir que sensiblement, quand même, bon. Non, vous comprenez, la luxure, elle m'empêche d'être léger, vous voyez, d'être léger pour Dieu. Les attachements terrestres, ce besoin qui est cette présence sensible d'un autre, hein, que moi, pour moi, de manière captative, si vous voulez, fait que du coup, je peux pas m'emparer de la totalité de Dieu. C'est impossible. Et c'est très important ça. Alors, évidemment, et puis l'orgueil. Donc il faut lutter contre ces trois péchés contraires en les fuyant à toute vitesse, comme la peste. Et enfin, il faut cultiver l'humilité, comprendre que uniquement l'espérance, la vie surnaturelle, où c'est Dieu vivant surnaturellement du ciel qui est en train de vivre en moi temporellement, qui peut, c'est cela seul qui peut unir en moi mes pauvretés à la surabondance divine. Et c'est ça l'humilité. L'humilité, c'est pas quand je suis écrasé, que je suis nul, etc. C'est quand il y a une surabondance infinie d'amour qui passe à travers ma pauvreté totale. Ça, c'est une simple humilité. Et pour ça, il faut repérer où est-ce qu'on en est dans l'humilité. Regardez bien, moi je termine par ça, et on va voir. Premier degré d'humilité. La crainte de Dieu. J'ai peur. J'ai peur que par mes actes, je trouble la présence de Dieu en moi. J'ai peur de prendre trop de place et que du coup Dieu prenne moins de place en moi. Ça, j'ai peur de ça. Ça, c'est le premier degré. Le deuxième degré, j'ai envie d'être sous l'ombre de quelqu'un d'autre. Sous l'ombre de Joseph. Marie avait envie d'être sous l'ombre de Joseph. Jésus avait besoin d'être sous l'ombre du Père de Joseph. J'ai besoin d'être sous l'ombre de quelqu'un d'autre. J'ai envie d'être soumis. Être soumission, hypotasso, en grec. Hypotasso, c'est être sous l'ombre de quelqu'un. C'est être soumis. C'est être sous l'ombre de quelqu'un. Mais oui, j'ai besoin de cette soumission à Dieu et à mes proches, à ceux qui sont proches de moi, d'être sous son ombre pour être soumis à lui. C'est le deuxième secret d'humilité. Pourquoi ? Parce que cette fraternité spirituelle, cette ombre d'un ordre auquel je suis soumis, me permet d'être docile au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, à ce moment-là, peut me prendre et m'utiliser. Oui, c'est le deuxième secret d'humilité. La troisième degré d'humilité, c'est que j'accepte, quand ça se présente à moi, de rentrer dans l'obéissance héroïque. Et quand je suis dans des actes qui me répugnent naturellement, par exemple, je ne sais pas moi, laver les cabinets quand quelqu'un vient de vomir dedans, ça me répugne naturellement. Lorsque je fais un acte répugnant, quelque chose qui me répugne vraiment, c'est Thérèse de l'Enfant Jésus qui dit ça. Eh bien, je saisis immédiatement cette occasion, ça m'arrive, quand l'occasion se présente, eh bien, c'est le troisième degré d'humilité. Immédiatement, quand je saisis cette occasion, je le fais. Et pendant que je le fais en même temps jaillir, au moment où je le fais, des désirs de lumière parfumée, de lumière infinie, de vérité. Au moment où je fais ces actes d'abnégation, en même temps, je fais des actes de désir, de perfection absolue de Dieu. Mais je mets au fond la grâce dans du vomi. Mais c'est l'histoire de Sainte Thérèse d'Avila que vous connaissez. Non, il ne faut pas que je raconte. Parce que sinon, on n'en finit plus. Si à un moment le démon rentre dans, elle est sur le trône de la reine, vous savez, elle est en train de faire ses besoins. Sainte Thérèse d'Avila, authentique, hein, celle qui est en train de faire ses besoins, et elle fait oraison au cabinet. Alors, c'est un acte qui lui répugne, ça, de au cabinet, Sainte Thérèse d'Avila, mariage spirituel, c'est quand même transverbération, je veux dire. Elle est au cabinet, elle fait oraison. Oui. Dans quelque chose qu'elle n'aime pas, elle met des actes sublimes de perfection. Alors le démon lui apparaît à ce moment-là. Et il...
Alors, on va voir, hein. Tu le glorifies, là, ça c'est moi.
Et toi, tais-toi. Ce qui est en bas, c'est pour toi, ce qui est en haut, c'est pour lui. C'est authentique. Oui, troisième degré d'humilité. Tranquille, simple, net, direct, vrai, réaliste. Quatrième degré d'humilité. Elle livre l'âme qui est humble et qui dépasse même ce plafond du troisième degré. Elle livre et ouvre résolument son âme à ses confesseurs. Même ce qui me m'humilise, vous voyez, c'est je livre, j'ouvre résolument mon âme à mon confesseur. Ça, c'est très difficile de livrer ses pensées à son confesseur. Il ne faut pas livrer ses pensées à n'importe qui. Ça, c'est un secret qu'on doit garder. Mais à son confesseur, il faut tout dire. Tout. Et surtout le pire, le plus
C'est avilissant pour moi d'avouer. Voyez, quatrième degré, elle le dit résolument. Cinquièmement, la degré supérieur, elle se satisfait de tout ce qui lui arrive. Tout ce qui m'arrive, ça, c'est vraiment, ça me met dans la joie. Et quelqu'un vient et il a un regard bienfaisant, qu'est-ce que ça me fait du bien. Quelqu'un arrive, c'est une espèce de crétin. Oh, merci Seigneur. Et l'humain régale les deux. Voyez, ça prouve qu'il y a espérance, puisque à chaque fois, l'autre, c'est quelqu'un qui est plus grand que moi, qui m'aime plus que je ne l'aime, et il me fait du bien. Alors du coup, je me sens plus pauvre, encore plus pauvre qu'avant, et il est admirable. Je dis, ah, oh, c'est formidable, ma pauvreté, allez hop. Et si c'est quelqu'un qui me dit espèce de crétin, ah bah oui, c'est vrai, je suis un crétin, c'est super. Du coup, je suis pauvre. Dans les deux cas, je deviens pauvre. Alors c'est la pauvreté qui me met dans la joie. Donc je reçois d'un même fond. Les deux, spontanément. Ça, c'est quand on arrive à ce degré d'humilité, c'est un beau degré d'humilité dans lequel vous êtes à peu près tous arrivés. Sixième degré, elle ne se préfère à personne. Elle ne se préfère à personne. Ah, ça c'est beau aussi, ça. Je me préfère à personne. Et je cherche à garder ma place quand même, vous voyez. J'ai la spiritualité de la dernière place au niveau du désir, c'est vrai. Donc je ne me préfère à personne, si j'ai le désir d'être toujours à la dernière place, que ce soit toujours les autres qui passent devant, c'est un désir. Mais je garde ma place quand même, hein, parce que c'est Dieu qui me l'a donné. C'est pas parce que c'est moi, c'est parce que Dieu qui l'a demandé. Je garde ma place. Allez, Patrick, tu vas. Allez, faire le truc là, aller là-bas, tu vas réparer les voitures. Ah non, mon père, moi, vous savez, je me sens pas capable. Je suis pas capable. Par humilité, je suis pas capable. Donc j'y vais pas. C'est formidable ça. Non, on garde sa place. Parce que c'est Dieu qui nous l'a donné, devoir d'État. Devoir d'État passe avant tout. Donc, mais j'ai le désir d'être à la dernière place quand même, vous voyez. Si j'ai autorité, qu'est-ce que vous voulez? Bon, tu vas te charger de la liturgie. Ah non, moi je suis pas capable. J'ai le désir que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse, mais si on me le demande, je le fais. J'ai le désir que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse, c'est sûr. Mais on me le demande, je le fais. Vous voyez, c'est ça. Je ne me préfère à personne, mais je sais. C'est quelqu'un d'autre qu'on choisit, un curé, pas un prêtre. C'est lui qui va faire le sermon. Ah, oh, mais j'ai le désir, celui qui fasse le sermon. Remarquez, il y a quelques fois, c'est des prêtres qui préfèrent, parce que tu n'as pas besoin de préparer le sermon, super. C'est beau, ça. Quand on désire que ce soit un autre qui passe devant, et que c'est habituel, voyez ça. Mais en même temps, si on nous le demande, on tient sa place. On est content de ça. Oh, que je suis content. Septième degré. Elle se retient dans le parler et dans le rire. Oh, ça c'est le père Emmanuel, me disait ça souvent.
Oh, mais tais-toi. Ferme-la. Mets ta gueule. Tais-toi.
Alors moi j'ai éclaté de rire. Père Emmanuel.
Je te fais le pas. Septième degré d'humilité, hein. Je touche tous, une risou, exalta, quoi que ce soit. Je me dois. Ah.
C'est celui qui est stupide, je touche tous, qui s'exalte, et l'orgueil, en riant. Quand tu prends le rire pour te faire entendre, c'est stupide. C'est pas simple. Tu peux pas te forcer, hein, attention, c'est à force de faire des actes d'espérance que du coup tu ris plus, tu t'exaltes plus dans le rire, mais tu t'exaltes dans la joie de du bon Dieu. Ce qui n'est pas pareil, hein.
Alors, il y a une retenue dans le parler, mais c'est pas, vous voyez, on force pas, toujours pareil, c'est pas forcé contraint. Ah non. Pardon. Je toule tous. Bon, ça va, Père Emmanuel, ça va, hein. Huitièmement, huitième degré d'humilité. L'humilité elle-même s'extériorise, se diffuse à l'extérieur d'elle-même, auprès des autres, sans même qu'elle puisse s'en rendre compte. Un humble transforme ceux qui sont autour de lui en gens, en humble. Un humble. Quand on allait voir Marthe, c'était ça. On allait voir Marthe, elle était tellement petite. Que du coup, on était tout petit. Et sans même s'en rendre compte. C'est le dernier degré d'humilité. Donc voilà. C'est pour ça que je vous ai proposé. Je vous donne. En fait, la prière qui est ici, ce soir, que vous pouvez redire, reméditer pendant toute l'année prochaine. Ça, c'est la base. Je vous ai fait un espèce de résumé de l'enseignement de la doctrine mystique de l'Église sur l'humilité, l'esprit de pauvreté et l'espérance. C'est un résumé. Donc, si vous voulez, je vous propose, j'ai exprimé de cette manière-là la prière par laquelle je voudrais offrir toute ma vie pour que l'esprit de pauvreté, l'esprit du Seigneur, l'esprit de pauvreté, l'esprit saint de crainte, puisse prendre toute ma vie intérieure, toute ma vie active. Et puis, on va en rester là pour cette nuit. Et on se prépare à vivre la journée de mercredi, qui est consacrée, comme vous le savez, à Saint-Joseph. Le lundi, c'est la purification du purgatoire. Le mardi, c'est l'illumination angélique, c'était aujourd'hui. Et le mercredi, c'est la pénétration, on s'enfonce dans la découverte du papa. Et on peut dire papa à Saint-Joseph. Et on se met sous l'autorité de Saint-Joseph. Mercredi, c'est consacré à Saint-Joseph. Tous les mercredis, il faut se consacrer à Saint-Joseph. Tous les mercredis sont totalement consacrés au papa. Alors, pour ça, que c'est bien de le faire ce soir, pour qu'on puisse en vivre demain. Et puis, si vous voulez, on va le dire maintenant, ensemble, comme prière du soir. Je me mets aujourd'hui sous l'autorité de Saint-Joseph, directement et résolument. C'est pourquoi la consécration dans la joie des pauvres m'engage, Seigneur, à abdiquer volontairement et foncièrement, par amour pour toi, tous mes droits et revendications humaines. La consécration de la joie des pauvres m'engage, Seigneur, à te laisser prendre possession de ton droit sur moi, sur mon âme, qui ouvre toutes ses portes en cet instant à ton action directe et immédiate. Je te donne autorité pour me dépouiller de tout ce qui fait écho, de tout ce qui pourrait restreindre et limiter humainement en moi l'amour, de tout ce qui pourrait blesser la délicatesse infinie de ta joie transformante. Je choisis joyeusement d'abdiquer de tous mes droits, de me dépouiller de moi-même, parce que je désire profondément progresser. progressivement pouvoir assumer, dominer et offrir toutes mes angoisses et toutes mes croix. Pouvoir être libéré et arraché à toutes mes fausses richesses intérieures de manière à pouvoir recevoir ton don. De manière à pouvoir recevoir le don le plus parfait qui soit. De manière à pouvoir recevoir la richesse la plus grande. De manière à pouvoir recevoir le trésor des trésors. Et d'être petit à petit transformé en soif de ta venue. De ta venue, Seigneur, une soif tellement grande que je ne puisse plus désirer autre chose que ceci, que tu reviennes maintenant et que la terre disparaisse définitivement et qu'il n'y ait plus que le ciel éternel de ta gloire. En m'engageant personnellement sous l'ombre de Joseph, je rentre solidairement dans la donation unanime de tous ceux qui s'y engagent, en même temps que moi, prêt que je suis, prêt que nous sommes tous à être les uns pour les autres, comme les vases communicants d'un unique combat contre l'esprit du monde. Avec la joie de ceux qui ont choisi l'allégresse victorieuse de la résurrection. Amen. Ça vaut ce que ça vaut, mais vous pouvez écrire votre propre consécration à l'esprit de pauvreté. Oui. C'est bien.